Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Déjà la rue s'éveille, c'est le lit qui bonjour. Le soleil aux merveilles sublime les faubourgs. Bonjour mon père, ma mère.
Bonjour mes chers enfants.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame Durand.
Good morning Mr. Kane.
Buongiorno signora.
Bonjour belle Athénienne.
Bonjour Calimera.
C'est le matin, ça chante sous le soleil tout neuf. Qui glisse sur la pente, tout est frais comme un œuf. Et la moitié du monde dans la fraîcheur du jour se salue à la ronde. Calimera, bonjour. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci? Ne sont-ils plus que formules? Nos bonjours, sept protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Bonsoir, le jour décline, le vieux soleil s'en va. Bonsoir.
Good evening.
Bonsoir.
Buonasera.
La journée est finie.
Les ateliers fermés.
Oh, que c'est bon la vie dans le soir embaumé. Bonsoir, cher baron.
Bonsoir, mon général.
Oui, bonsoir, c'est la bonne.
Et bonsoir, Marie Chantal.
Tandis qu'outre Starine, Frau Professeur König, dans sa langue divine lance un
Gutnapik. Mais le peuple hellénique, assis sur l'agora, salut le ciel attique, bonsoir Calispera. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci? Ne sont-ils plus que formules? Nous bonsoir, c'est que protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Déjà la rue se vide sous les lampions éteints, et dans l'ombre languide minuit sonne au lointain.
À l'hôtel de la lune, des couples enflammés s'en vont chercher fortune. Bonne nuit, bien-aimée.
Bonne nuit, Tourterelle.
Good night, oh Romeo.
Dorothée, Isabelle.
Il a beau, mais Julot.
Bonne nuit, juge intègre. Votre bourreau demain pendra le pauvre nègre. Bonne nuit, dormez bien.
Petits enfants,
poète,
belle señoritas, buenas noches.
Good night.
En grec,
kalinikta. Si ces mots étaient sincères, tout changerait à l'instant. Bonjour les gens de la terre, bonsoir, bonne année, bon vent. Ça ferait une telle somme d'amitié, je vous le dis, que ce vieux berceau des hommes pourrait, comme avant la pomme, devenir un paradis.
Bonjour tout le monde, l'émission Bonjour Voisin aujourd'hui, spécial animaux, présentée par l'équipe de L214 avec Pascal, Victoria et moi-même Brigitte. Cette émission pour secouer les idées reçues qu'on a sur les animaux, prendre conscience de ce qu'on leur fait subir et puis se lancer dans l'action. Aujourd'hui, on va parler de la revendication de la fin de l'exploitation des animaux, comment agir dans son quotidien, être en cohérence avec ses idées, montrer que c'est possible. Et pour ça, nous aurons plusieurs invités aujourd'hui. En studio, nous recevons Laure, Lia.
Bonjour.
Et puis Luna, qui interviendra sans doute, mais qui est encore bien jeune et qu'on entendra peut-être babiller au fond en bande-son. Et puis par téléphone, nous recevrons Déborah, qui est une des organisatrices du Paris Vegan Day et aussi fondatrice du Gentle Gourmet Café, que nous recevrons par téléphone un petit peu plus tard. Et en fin d'émission, nous recevrons Sandra Estève pour l'association Laissons leur peau aux animaux. Voilà. Tout d'abord, on va commencer, comme d'habitude, par une histoire racontée par Pascal.
Oui, en fait, c'est l'histoire d'un ex-matador, donc je vais vous lire son témoignage. Je suis née à Medellín. Mon père m'a emmenée voir des corridas dès que j'ai eu 4 ans. Le contexte familial était totalement pro-taurin. Chez nous, il n'y en avait que pour les taureaux. Ça représentait tout pour mon père. À 12 ans, j'ai choisi de devenir torero. 5 ans plus tard, je suis devenue célèbre à la feria de Medellín. Il y a eu toutefois des moments critiques. Un jour, j'ai tué une génisse pleine et j'ai vu comment le fœtus était extrait de ses entrailles. C'était si horrible que j'en ai vomi et que je me suis mise à pleurer. J'ai voulu tout arrêter à ce moment-là. Mais mon manager m'a donné une tape dans le dos en disant que je ne devais pas m'en faire, que j'allais devenir une figure importante de la tauromachie et que des scènes comme celle-ci étaient banales dans la profession. Je suis navrée d'avoir manqué cette première occasion d'arrêter. J'avais seulement 14 ans. Plus tard, j'ai dû m'y prendre à 5 ou 6 fois pour achever un taureau à coups d'épée. Le pauvre animal, les entrailles à l'air, refusait encore de mourir. Il a lutté de toutes ses forces jusqu'à son dernier souffle. Ça a provoqué un électrochoc. Et une fois de plus, je me suis rendu compte que cette vie-là n'était pas pour moi. Mais mon voyage en Espagne était déjà organisé, alors je me suis sentie obligée d'y aller. Je me suis battue 22 fois, jusqu'à ce que le 22 septembre 1984, je me fasse embrocher la jambe gauche et jeter dans les airs. Bilan, un traumatisme crânien et la colonne vertébrale atteinte. Le diagnostic était sans appel, plus jamais je ne marcherai. 4 mois plus tard, je suis partie aux États-Unis pour entamer ma rééducation et j'ai eu l'occasion d'aller au lycée. Je me suis retrouvée à devoir affronter une société anti-taurine, incapable de concevoir que notre société puisse autoriser la torture et le massacre des animaux. Mes camarades de classe, les médecins, les infirmières, les autres handicapés, mes amis m'ont dit que je méritais bien ce qui m'était arrivé. Leurs arguments étaient si béton que j'ai dû accepter que c'était pour moi, que c'était moi qui avais bien tort et que les 99% de la race humaine sont fermement opposés à ça, avaient totalement raison. J'avais l'impression d'être un criminel. Un taureau m'a cloué à un fauteuil roulant et un autre a tué mon meilleur ami. Je devrais logiquement être la dernière personne sur Terre qui se préoccupe des taureaux. Mon seul espoir aujourd'hui est d'avoir une vie suffisamment longue pour que je puisse m'amender de tous mes crimes. À vrai dire, je ne sais pas s'il existe beaucoup de toreros repentis. Il y a Chiquilla qui affirme avoir vu aussi des taureaux pleurer et dit ne plus vouloir faire de mal à une mouche. Il y a aussi de plus en plus d'ex-aficionados, des gens qui ont compris à quel point le spectacle était macabre et qui ont arrêté d'aller aux arènes. Voilà, moi j'ai compris l'adage, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà, c'était donc un témoignage qui montre encore une fois que l'humain peut changer, que tout est possible, qu'on peut prendre conscience que les animaux sont des êtres vivants sensibles. Et voilà.
Oui, ça nous fait penser que tous, avant d'être... quand on devient végétarien ou vegan, ben forcément, avant, la plupart d'entre nous, on ne l'était pas, mis à part les personnes qui sont nées dans des familles où déjà le végétarisme ou le véganisme était de mise, où il y avait cette volonté de boycotter les produits d'origine animale. Et on ne s'en rendait pas compte. Ça nous a tous pris à un moment cette prise de conscience de ce qu'on faisait subir aux animaux juste pour les manger. Et puis, au-delà de cette prise de conscience, de se dire « mais bon sang, il y a peut-être d'autres façons de vivre qui ne créent pas toute cette souffrance », aujourd'hui, il y a des personnes qui s'engagent à essayer vraiment de changer les choses, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour le monde qui les entoure et qui revendiquent, alors c'est le cas pour l'association L214, un monde complètement différent, un monde qui ne serait pas basé sur l'exploitation des animaux et qui essaye de promouvoir quelque chose de bien différent. Alors on a des signes vraiment encourageants aujourd'hui, le plus récent, qui concerne aussi notre association, ça a été l'élection de Miss Piggott au concours féminin bio. Victoria, t'es allée à la remise des prix, c'était quoi ce concours ?
Oui, c'était très agréable en fait, Nathalie a remporté une aide substantielle de 5000 euros pour L214, donc un don. Qui lui a été accordé suite à des élections avec des votants et tout ce qui va avec, suite à ses recettes de cuisine. Le fait qu'elle met en avant une cuisine végane, donc libre de toute souffrance animale et de tout produit d'origine animale, est un succès énorme, à mon avis.
Oui, c'est un bon signe pour la suite. Tout de suite, on va faire la première pause musicale avec Jonathan Mann sur une de ses petites chansons originales. Et on se retrouve tout de suite après avec Lia et Laure pour nous raconter leur expérience.
Hey Ivory.
Yeah, Jonathan.
You're vegan, right?
Yes, that's right, I am.
Can I ask you some questions then?
Sure, man. Of course you can.
Are you ready for the questions then?
What are you waiting for?
Where do you get your protein? Protein, protein. Only meat has protein. So where do you get your protein?
Actually, lots of things have protein. Beans have protein. Greens have protein. Fruits and nuts have protein.
Well, I never
knew that before.
It's true.
Where do you get your calcium? Only milk is calcium. Healthy bones from cow's milk. Calcium, I drink it, yum.
Lots of plants have calcium, and lots of calcium. And cholesterol, well, they have none of the fat found in milk.
Calcium, no fat? Greens give me calcium? What about our ancestors? Didn't they eat meat? If I wasn't supposed to eat it, then why do I have these teeth?
Do your teeth look like a carnivore's, all sharp and pointy like? No, you gotta cook your meat over a roaring firelight. Furthermore, all carnivores act on instinct. But humans make the choices they consider and they think. If humans of old ate meat, it was a choice, not a necessity.
Well, I never thought about it that way. If everyone were vegan, what about all the cows and all the gajillion chickens that are living on farms now?
If everyone were vegan, it wouldn't happen overnight. Demand would just decline, and so would the supply.
Isn't vegan food just bland and gross?
No, it's yummier than most.
You care about animals more, you do.
I care about animals, people too.
Aren't vegan men weak and girly?
I find vegan men quite sexy.
B12, so there, haha.
B12's for bacteria.
Where do you get your protein?
Plants.
Where do you get calcium?
Plants.
Where do you get your iron?
Plants.
Where do you get your zinc?
Plants.
Where do you get your protein?
Plants.
Where do you get calcium?
Plants.
Where do you get your iron?
Plants.
Where do you get your zinc?
Plants.
Hey, Ivory.
Yeah, Jonathan.
I think I get it now.
You do?
Yeah, it's all about plants.
Yep, that's pretty much it.
Okay, cool. Glad we cleared it up.
Me too. Let's have a snack.
Et voilà, c'était Jonathan Mann donc, qui nous faisait cette petite chanson avec Avery. Et pour les personnes qui comprennent l'anglais, c'est tout à fait compréhensible. Pour les autres, c'est Jonathan qui se pose des questions sur le régime vegan. Comment on fait pour être vegan? Où est-ce qu'on trouve les protéines, le calcium? Et Avery qui lui répond de façon exacte et tout à fait détendue que c'est tout à fait possible. Et à la fin, ben, ils vont manger un petit bout ensemble. Vegan, bien entendu. On vous revient sur l'émission avec, est-ce que les vegans existent ou est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'on peut vivre sans manger les animaux ou les produits animaux? On reçoit alors Laure et Lia en studio. Et Luna.
Fait qui nous rend toutes particulièrement souriantes parce que la présence des enfants est quand même dans un studio en direct est trop jolie et inattendue. Donc Laure, bonjour.
Bonjour.
Voilà, tu es végane.
Oui,
tu as deux enfants véganes. Tu as vécu des grossesses véganes,
oui,
des allaitements véganes, et tu es toujours vivante, tiens. Comment ça s'explique? Comment tu es arrivée là?
Je ne sais pas, un miracle, je ne comprends toujours pas. J'ai essayé de contacter le Vatican, mais bon, ils sont un peu difficiles à joindre. Bah oui, les grossesses véganes se passent a priori très bien. J'ai eu de superbes grossesses. Et d'ailleurs, elles sont, je trouve, beaucoup plus zen, je pense, qu'une grossesse omnivore, puisqu'on n'a pas tous les problèmes de mercure avec les poissons, d'intoxication alimentaire. À chaque fois que je voyais un conseil, c'était pas pour moi, savoir cuire ses viandes, tout ça. Aucun souci, je pouvais manger mes saucisses véganes crues si je voulais. Je trouvais qu'en fait, quand on est informé, une grossesse végane, c'est beaucoup plus simple au final et qu'une grossesse omnivore, de mon point de vue. Donc voilà, et puis ça fait de beaux enfants, je trouve, qui sont aussi dynamiques, voire plus que... des enfants omnis, et puis voilà, tout se passe bien.
Absolument. Donc, je te posais cette question en faisant un peu dans l'ironie, parce que dès qu'on discute, dès qu'on parle du véganisme, on bouge forcément dans un univers plein d'idées reçues et de reproches fréquents, toujours les mêmes, on est fatigué d'entendre, toujours les mêmes questions, qui ont pourtant été bien déconstruites. Il y a un document très important, en fait, qui a été conçu par l'Association américaine de diététique et des diététiciens du Canada, qui présente de façon objective les conséquences de ces modes d'alimentation sur la santé humaine, en les comparant avec celles d'une alimentation omnivore. Et leur conclusion est ferme, catégorique. Oui, le régime végétarien, y compris celui végétalien, est bien approprié pour tous les âges de la vie, pour les sportifs, pour la grossesse, pour la période d'allaitement. Il suffit que le public s'informe, ce qui n'est pas notre cas en France.
Ce n'est pas facile à faire en France également, parce que les gens en général, leur information, c'est leurs médecins de famille, qui ne sont pas très formés en nutrition, voire on pourrait dire presque pas du tout pour certains. Il y a beaucoup de préjugés, l'information se fait également beaucoup par le biais de lobbies assez puissants en France. Donc on n'a pas du tout une information impartiale, objective en France. Et la plupart des parents, quand ils ne savent pas lire l'anglais ou se renseigner par eux-mêmes, se reposent sur ces informations qui sont en effet alarmantes. Je comprends qu'on puisse avoir des craintes quant au régime végétalien, quand tout ce qu'on entend, c'est le plan nutrition santé ou son médecin de famille, voilà. Mais il faut savoir que c'est un mode de vie qui est tout à fait possible, qui est même au contraire très sain, qui présente de nombreux avantages au niveau cardiaque, par exemple, pour le cholestérol, pour de nombreuses choses. Mais je pense que vous l'avez peut-être déjà traité dans d'autres émissions. Mais c'est un mode de vie qui est tout à fait possible. Et ça, on le sait pas en France, malheureusement. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est sensible à la cause animale, plus qu'on pense. Beaucoup d'enfants qui aimeraient être végétariens, surtout, et qui veulent pas qu'on fasse de mal aux animaux, et qui, de fois, sont forcés de manger leur viande. Et alors qu'en fait c'est simple, c'est possible et tous les enfants pourraient être végétariens, végétaliens sans aucun problème. Et voilà.
En effet, en France, si on ne donne pas à manger à ses enfants des cadavres d'animaux, on est des parents indignes. Pire que ça, comme tout le monde le sait, j'imagine, il y a un décret cantine qui a été formulé en 2011, qui est devenu effectif en 2012 et qui a été étendu aujourd'hui, à partir de la rentrée 2013, aux cantines universitaires qui prescrit la composition obligatoire des repas dans la restauration scolaire. Et évidemment, ces repas contiennent obligatoirement de la protéine animale, des produits laitiers et de la viande. C'est un casse-tête pour les parents avec des enfants qui auront au moins à l'idéal l'envie d'être végétarien ou végétalien. En ce qui me concerne, j'ai eu plein de témoignages des parents qui ont contourné à l'aide des faux certificats d'allergie alimentaire. Voilà, oui, qui ont...
Parce qu'en fait, il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément les végétariens, qui râlent un petit peu en disant « mais qu'est-ce qui demande un plat spécial ? La majorité mange de la viande, donc la cantine, il doit y avoir de la viande et c'est tout. Et vous n'avez qu'à vous faire votre repas. » Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en France, dans les écoles, on ne peut pas amener son repas. On n'a pas le droit. Si j'emmène ma fille à l'école, je peux pas lui faire un petit panier repas et puis tu manges ta nourriture.
Si tu as le droit,
non,
à condition.
Pas le droit.
Tu as le droit de
dire
le
qu'on
faire.
Est allergique ou
exactement.
Avoir une vraie allergie.
Exactement.
C'est pas un droit. C'est
une contrainte.
Ça veut dire
plus.
Quoi
Absolument.
C'est-à-dire que concrètement, si je veux mettre ma fille à l'école, si je travaille, ce qui est le cas de nombreux gens, beaucoup de gens travaillent à temps plein, ont deux emplois. On peut pas. Il y a une personne qui doit rester à mi-temps ou à la maison pour pouvoir récupérer l'enfant entre midi et deux. Sinon, il mange pas. Il va pas jeûner jusqu'à la fin de la journée. Ce serait dommage. Ou payer quelqu'un pour aller le récupérer à l'école entre midi et deux. Enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait subir ça, avoir ces frais-là, alors que c'est censé être l'école de la République? Si les plats de la cantine étaient tous végétaliens, ça conviendrait à tout le monde. Ça conviendrait aux musulmans, aux juifs, ça conviendrait aux végétariens, ça conviendrait aux omnivores aussi. Et c'est un repas sain où il y a moins de pesticides parce que dans les cantines, les viandes ne sont pas non plus toutes bio. Donc ça expose les enfants qui ne peuvent pas justement choisir la qualité des plats à beaucoup de contaminants qui peuvent être très, très nocifs pour leur santé. Donc c'est également une manière de manger plus sain et d'apprendre aux enfants à manger plus sain. Et donc, ce serait vraiment l'idéal, ce serait d'avoir des cantines végétaliennes et que les enfants aient le droit d'apporter leur repas. C'est, ça me semble, sans prétendre être allergique ou sans l'être vraiment. Donc voilà, quoi. On est dans une situation où les parents sont discriminés. Et on peut pas, quand on est vraiment végétarien ou végétalien, concrètement, soit on essaie de contourner, soit on va dans une école privée où il y a un système de panier repas, mais tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Soit il y a un parent qui reste à la maison, qui travaille à mi-temps. Ça ne me semble pas être une situation acceptable dans un pays qui est censé prôner la fraternité, la liberté, et l'égalité.
En Belgique, c'est différent. On peut amener son panier repas. C'est quelque chose de répandu. Et c'est vrai que dans d'autres pays, ça se passe vraiment différemment.
Oui, mais plus que ça, une association végétarienne a lancé en 2009 le concept de jeudi végétarien, une première mondiale en Belgique, et qui a eu énormément de succès. En fait, des cantines d'école et des restaurants d'entreprise ont adopté l'idée avec beaucoup d'enthousiasme et la demande est croissante. Nos amis de Suisse ont fait pareil. En fait, c'est vraiment spectaculaire. La proportion de leur menu végétarien a grimpé de 20% dans une année. Mm-hmm. Donc, c'est quand même impressionnant. Laure, j'ai compris que tu as contourné toutes ces difficultés en t'occupant toi-même de tes enfants.
Oui, enfin, ce n'était pas le principal objectif, mais oui, nous, on fait l'école à la maison pour plein de raisons, parce que c'est un mode de vie qui nous convient, voilà. Et donc, oui, on n'a pas ce problème, en effet, des paniers repas, mais il y a des petites copines qui sont scolarisées, qui sont végétariennes et végétaliennes et qui ont ce problème, donc j'y suis assez sensible.
Et pour revenir sur les initiatives, la première initiative, c'était quand même en France, c'était Jacques Bouteau en début 2009 qui a lancé les repas végétariens, le mardi végétarien dans les cantines scolaires. Et ensuite, projet de plus grande envergure en Belgique, comme tu l'as dit, avec le Jeudi Veggie lancé à Gand et qui là a touché beaucoup plus. Jacques Bouteau a touché la cantine scolaire. Et par contre, le Jeudi Veggie, là, ça s'est répandu dans les entreprises, dans les restaurants, dans les cantines scolaires. Et c'est en train de bouger sur toute la Belgique, sur l'Allemagne et même au-delà. Et puis, il y avait l'initiative aussi de Paul McCartney avec les Meatless Monday, qui là sont aussi aux États-Unis et puis sur l'Angleterre, etc. Donc en France, on est vraiment, vraiment en retard.
Ah oui.
Voilà.
Alors qu'en France, oui, on est encouragé à écrire à nos élus, aux directeurs des services de restauration scolaire. Ensuite, on arrive à chaque rentrée, et c'est bien mon cas. J'arrive toujours avec des courriers répétés en exigeant une possibilité de petit menu végétarien ou végétalien à la cantine. Et le dialogue bloque toujours au niveau du défenseur du droit qui m'explique chaque année que ma demande ne peut pas être traitée comme une discrimination et qu'on ne peut rien faire.
Oui, il y a eu aussi le cas sur Lyon, une famille où l'enfant était à la crèche et ça n'a pas été possible d'avoir des menus. Et on lui a opposé le décret cantine, justement, le fameux décret dont on a parlé, en disant que non, c'était pas possible de faire comme ça. À Gonesse aussi, dès que le décret a été publié, alors qu'ils avaient enfin des repas proposés végétariens justement aux familles qui le demandaient, ils les ont supprimés immédiatement en privant ainsi une partie des enfants de la possibilité de manger à la cantine à midi.
Donc. Et la motivation de ce décret à la base était de soutenir les industriels, il me semble.
Alors dans le GEMRCN, donc c'est ce qui a servi de base sur ce décret cantine. Effectivement, on peut constater que les lobbies étaient bien présents, aussi bien des industriels agroalimentaires, mais aussi le Centre d'information des viandes, qui, dans ses membres, a la Fédération nationale bovine. Et on peut retrouver justement les préconisations. Il n'y a pas d'obligation de manger, par exemple, de la volaille, mais le CIV ne défend pas justement les volaillers, mais défend les entreprises qui font du veau, du bœuf, etc. Et c'est ces viandes-là qui sont obligatoires avec une périodicité d'un repas sur quatre, quoi.
En tant que parent, je trouve ça particulièrement révoltant qu'on prenne nos enfants pour des poubelles. Il faut dire ce qui est, on n'est pas, nos enfants sont pas là pour ramasser les déchets ou les produits.
Là, c'est un débouché, oui, c'est économique.
Oui, mais ouais. Ça concerne. Il y a peu de parents qui se sentent concernés par ça parce qu'ils sont soit pas végétariens, soit pas musulmans, voilà. Mais je pense qu'ils devraient se sentir vraiment beaucoup plus concernés par ça parce qu'on est vraiment censé se préoccuper de ce que mangent nos enfants. Et je trouve ça vraiment très effrayant que des lobbies puissent définir ce que mangent nos enfants dans les écoles, c'est-à-dire des intérêts économiques, pas des intérêts de santé. Et enfin, je trouve ça vraiment très effrayant, surtout à l'heure actuelle où... Il y a quand même pas mal de problèmes au niveau sanitaire, notamment.
Alors, Lia, regarde, tu as un gros microphone noir. Et grâce à ce microphone, il y a plein de personnes qui t'écoutent, là. Tu pourrais nous dire pourquoi tu ne manges pas d'animaux?
Parce que je les trouve particulièrement gentils. Et que pourquoi est-ce qu'on mangerait des êtres vivants qui sont complètement vivants, mais tout comme nous?
Mais oui, je pense que tu as raison. Et est-ce que tu es contente d'être à la maison et d'avoir ton rythme, d'avoir des activités avec ta maman, ta famille, chez toi, tranquillement?
Oui, très contente.
Et quand tu parles avec tes camarades qui vont à l'école, qu'est-ce qu'elles te racontent?
Ben, par exemple, elles me racontent pas grand-chose. Par exemple, pas tellement grand-chose parce que en dessous de chez moi, j'ai deux amis qui s'appellent Lenny et Tan. Et l'autre jour, ils m'ont dit qu'ils avaient mangé à la cantine de la dinde aux haricots blancs. Lenny avait dit qu'elle était bien dorée et qu'il avait adoré. Mais pourtant, il m'avait promis de ne plus jamais manger de canard. Et Tan, lui, il avait mangé du poisson aux pâtes. J'avais envie de vomir à ce moment-là.
Ah, c'est vrai que pour les enfants qui sont nés dans des familles qui sont végétariennes ou végétaliennes, en fait, nous, on se rend pas compte. On est nés dans des familles où c'était classique de manger viande et poisson. Mais pour eux, c'est quelque chose qui n'existe, qui semble inconcevable. En fait, comment le premier humain a eu l'idée de porter à sa bouche le corps d'un autre animal, quoi? Enfin, voilà, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Mais pour sortir de ça, on peut aussi aller... souvent, dans les idées reçues, il y a le fait qu'on va se faire envahir d'animaux, que va plus y avoir de fumier s'il n'y a plus d'élevage, ou alors que les animaux vont disparaître. Tout ça, ce sont des mythes, évidemment. Le fait de ne plus manger d'animaux... les chats et les chiens, on ne les mange pas, et pourtant, il y en a plein autour de nous. Et le fait qu'on soit envahi d'animaux, c'est aussi un mythe. Aujourd'hui, on fait naître tous les animaux qui sont mangés. Et donc, il y a une autre agriculture qui s'est développée, qui n'utilise pas d'intrants d'origine animale. C'est l'agriculture végane.
Oui, en effet, c'est l'agriculture végane. Et donc, quelques mots à ce sujet-là, parce que c'est vraiment très intéressant. Sa dimension première est sans doute de n'exploiter aucun animal sentient, directement ou indirectement. Le fumier d'origine animale, les engrais provenant des cadavres d'animaux, l'utilisation de la force de travail des animaux sont écartés par l'agriculture végane pour nourrir les plantes et enrichir le sol. En fait, elle retiendra les engrais végétaux comme les purins de plantes, le compost végétal ou d'origine humaine d'ailleurs, et les engrais verts qui ne sont pas issus de l'exploitation des animaux et qui ne génèrent pas de pollution. En fait, l'agriculture végane s'attache à minimiser autant que possible son impact environnemental et elle cherche même à le rendre positif. Amélioration de la qualité des sols, espaces agricoles gérés de façon à ne pas être hostile aux animaux sauvages, etc. En produisant exclusivement des végétaux, céréales, légumineuses, légumes, fruits, elle est facteur de paix et de lutte contre la faim dans le monde. Mondialement, plus de 2/3 des terres agricoles servent à l'élevage, ce qui représente le tiers de la surface totale terrestre. Ainsi, éviter les produits animaux permet donc d'économiser terres et nourriture, celles-ci pouvant alors être utilisées pour cultiver des aliments directement consommables par les humains. Le mode de production de cette agriculture végane se veut éthique et donc locale, et elle est également bonne pour la santé, car sans manipulation de produits phytosanitaires dangereux, et produisant des végétaux de qualité biologique. Son plus grand handicap à l'heure actuelle est sans doute le fait qu'elle soit encore si peu connue et pratiquée. Mais elle n'est pas une utopie et des personnes toujours plus nombreuses la pratiquent et en perfectionnent la technique à travers le monde entier. Isolément ou à travers l'une des structures existant actuellement. Et je vous invite à découvrir le Vegan Organic Network, BioVegan, donc ça a été créé en Autriche, en Allemagne, et VG Culture, donc qui est francophone. Donc vous pouvez avoir des informations sur Internet. Voilà, l'agriculture végane possède ainsi plusieurs tendances, certaines développant davantage certains points que d'autres. Voilà.
Et donc, c'est l'Association végétarienne de France qui vient de sortir une brochure qui compile quelques textes sur justement l'agriculture végane et aussi, enfin, vous allez voir, il y a des initiatives qui sont lancées à surveiller sur l214.com qui regroupent justement des agriculteurs véganes qui se sont lancés dans cette aventure et pour qui ça marche bien. Et maintenant, on va faire la deuxième pause musicale. On va voir que les VG, qui souvent ont une image triste, en fait, peuvent avoir beaucoup de peps.
This is Vegan Star. Vegan Star. 8 years ago, I decided to go vegan. No more milk and eggs, fish and cow. The diet phase, even my Jewish mama asked if I was going crazy. Every day since then, I'm being asked, what's a vegan? People talk as if they have a degree in nutrition. They say, you know it's not healthy, that's the reason you're so skinny. I said, check the FDA and why not read the China study? What about plants? Don't they have feelings when you cut them? Cut a salad. What about plants? Don't they have feelings? No, they don't. No, no, they don't. No, plants don't have feelings. You idiot. This is Vegan Star. This is Vegan Star. Vegan Star. Oh, 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 oh. This is Vegan Star. Hey, vegan lady. Oh, 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 oh. This is Vegan Star. Hey, vegan lady. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Their intelligence don't matter, just the fact that they can suffer. Just for the sake of taste, you're sending animals to slaughter. You don't have to love them in order to not kill them. Just like you don't kill people even though you'd love to shoot them. No, it's not a trend and we don't have a guru. And baby, yeah, we have lots of other things to do. Gary, you're Roxy, man, best speech you've ever heard. About time to realize your vision has been blurred. What about plants? Don't they have feelings when you cross them? Cut a step, man. What about plants? Don't they have feelings? No, they don't. No, no, they don't. No, plants don't have feelings. You idiot. This is Vegan Star. Vegan Star. Oh, 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 oh. This is Vegan Star. Vegan Star. Oh, 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 oh. This is Vegan Star. Hey, vegan lady. Oh, 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 oh. This is Vegan Star. Hey, vegan lady. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Now that I'm vegan, my shit smells better. I'm more healthy, ecologic, even happier. Not killing animals makes my conscience clean. Baby, baby, check out my new glowing skin. This is Vegan Star. Vegan lady. Oh, 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 oh. This is Vegan Star. This is Vegan Style.
Et voilà, c'était Vegan Style. Comme quoi, hein, les VG peuvent aussi être drôlement dynamiques et avoir le sens de l'humour. On va voir maintenant, on va recevoir Déborah par téléphone qui va nous parler des gros événementiels qu'elle a organisés comme le Paris Vegan Day ou les réveillons vegan sur des péniches. Et puis aussi le restaurant qu'elle a monté, le Gentle Gourmet Café. Bonjour Déborah.
Bonjour Pascal.
Bonjour Déborah.
Bonjour.
Oui, en fait, tu es donc responsable du Paris Vegan Day, créé en 2010 pour promouvoir, développer et démocratiser le mode de vie vegan. Tu as également organisé des réveillons vegan et puis tu occupes du Gentle Gourmet Café comme on vient de le dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est venue l'idée de cet événement quand même d'une grande envergure à l'UPVD?
Oui, en fait, en 2009, nous avons ouvert, ma fille, un de mes fils et moi-même, à Paris. On voulait faire quelque chose pour promouvoir le véganisme à Paris. Donc, on a commencé avec des cours de cuisine, une chambre d'hôte, des dîners. Et deux mois après, en réfléchissant au mois mondial du véganisme, qui est le mois de novembre, je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez si on fait un petit festival. Et tous les dimanches, on avait des gens pour le brunch du B&B et on proposait aux gens, ah, est-ce que vous voulez nous aider à faire? Et les gens étaient très enthousiastes. Donc, un petit groupe, on a mis en place un petit festival et finalement, il y a quand même 400 personnes qui sont venues. Mm-hmm. Et suite à cela, on s'est lancé dans quelque chose de beaucoup plus grandiose pour l'année suivante et on a eu quand même presque 5000 personnes. L'année après, presque 8000 personnes, mais sur deux jours. Et le but a toujours été les mêmes choses, c'est de montrer à tout le monde que c'est un mode de vie qui est facile, qui est vraiment bien, qui rectifie l'injustice faite envers les animaux. Et qui nous permet une mode de vie vestimentaire, alimentaire tout à fait vraiment fabuleux. Et on voulait montrer aux gens comment faire, comment c'était possible, les sociétés qui peuvent faire les produits, etc. Donc, en fait, le festival est simple parce que c'est basé sur une vérité, une pratique qui est simple et juste. Donc, voilà.
Et en fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme? Qu'est-ce qui se passe quand on vient au PVD? Est-ce qu'il y a des cours de cuisine?
Oui, cette année, j'avoue que il y a quelque chose qui est vraiment très différent. Comme toutes les autres années, on va avoir des conférences toute la journée sur l'éthique animale, des conférences sur la nutrition, comment et pourquoi de l'alimentation végane. Il y a des gens qui vont parler aussi du fait que végane plus bio, c'est vraiment une combinaison gagnant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est toutes ces conférences, les gens qui viennent vraiment d'un peu partout. Les démos culinaires, c'est pareil, les exposants qui vont venir nous montrer les produits que nous aimons et des choses pour qu'on puisse découvrir des nouveautés. Il y a un village des enfants, ça on l'a fait aussi, le village des enfants, on va pouvoir montrer déjà aux parents différents produits, les parents vont pouvoir parler entre eux, les enfants vont pouvoir surtout s'amuser. Cette année, ce qui est vraiment différent, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup, beaucoup de monde qui ne connaît pas encore le véganisme ou même le végétarisme, ils ne savent pas comment faire, en fait. Donc, on a décidé de donner des dizaines et dizaines, voire des centaines de cours de cuisine qui sont menés par des chefs, par des blogueuses culinaires, par les auteurs de livres de recettes véganes et aussi par les passionnés, les gens qui ont quelque chose à partager. Et je peux dire que la journée est vraiment basée sur le partage de connaissances. Que les gens viennent, qui partagent ce qu'ils savent. Certains savent plus, certains savent moins, mais tout le monde, à la fin de la journée, va repartir, je pense, avec beaucoup plus de connaissances pour pouvoir bien mener, pour bien faire comprendre aux autres personnes. Donc, on attend avec beaucoup d'enthousiasme ce prochain festival.
D'accord. Et en fait, est-ce que tu peux également nous parler des réveillons véganes? Pourquoi est-ce que vous avez cette idée-là? Et comment est-ce qu'on fait pour organiser justement de tels événements? Et est-ce que vous faites appel à des bénévoles?
Alors, les réveillons, c'était un peu amusant. C'était à la suite d'un PVD. Quelqu'un m'a demandé si j'allais faire quelque chose un peu plus tard. Eh bien, ça m'est venu spontanément l'idée de faire un réveillon et je voulais faire quelque chose qui vraiment s'y sortait de l'ordinaire. Donc, tous les étrangers, quand ils pensent Paris, ils pensent à une croisière sur la Seine. Donc, j'ai lancé cette idée et c'est vrai que ça a montré que nous, en tant que véganes, c'est un mode de vie qui n'est pas fait par des sacrifices. C'est le contraire. C'est qu'on gagne. On gagne, on découvre énormément de choses et surtout une conscience qui est claire et libre. Par rapport aux animaux. Donc ça, c'était, on a fait deux fois, c'était vraiment la fête. Pour organiser, eh bien, c'est beaucoup de travail. C'est même des centaines et centaines d'heures de travail pour pouvoir mener ça bien. Et il y a des bénévoles qui aident surtout les derniers mois. Quand c'est, bon, moi, je suis ma même bénévole, mais toute l'année. Mais cette année, je suis vraiment reconnaissante. Il y a énormément de monde qui vont venir aider, qui vont faire en sorte que ça soit quelque chose de en fait de grande qualité. Et donc, je les remercie.
D'accord. Et donc, le Gentle Gourmet Café, si tu peux nous dire un petit peu voilà, ce qui s'y passe, qu'est-ce qui vient.
Je dirais c'est un peu le pendant, c'est que quand on a commencé en 2009, c'est une chambre d'hôte, comme je disais, cours de cuisine et des dîners. Mm-hmm. Mais beaucoup de gens ne pouvaient pas venir parce que c'était restreinte en tant que quand il y avait des personnes qu'on pouvait recevoir. Donc, on a décidé de faire un restaurant et on a commencé il y a un an et demi et l'aventure continue et on a d'autres projets parce que il faut montrer. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 70% des personnes qui viennent qui ne sont pas ils sont ni vegan ni végétariens. C'est des gens, soit ils viennent comme ça, ils sont curieux, ou soit ils accompagnent. D'accord. Et ça, c'est l'opportunité pour nous de montrer aux gens qu'on a un mode de vie qui tient la route, qui est sain, mais en même temps gourmand. Et ça aide beaucoup de monde à, par la suite, plus calmement réfléchir aux problèmes éthiques. Une fois, leur crainte de ne plus vivre d'une manière sympathique est retirée. Parce qu'une fois ça s'est conclu et compris, les gens peuvent penser aux choses plus importantes. C'était un peu le but. Mm-hmm. Donc, on pense qu'on contribue avec beaucoup d'autres restaurants vegan qui sont à Paris, qui des nouveaux, beaucoup de nouveaux aussi, à faire promouvoir ce mode de vie. Donc,
d'accord.
Voilà.
Bah, écoute, merci beaucoup, Déborah, de nous avoir éclairés. Et en fait, est-ce que tu pourrais rappeler la date, le lieu, etc. du Paris Vegan Day?
Voilà. Eh bien, et c'est le samedi 12 octobre. Oui. Les portes vont s'ouvrir à 10h le matin. Mm-hmm. Ils vont se fermer à 19h. Et c'est à les docks en Seine, Cité de la Mode et du Design, qui est quai Austerlitz, hein, dans le 13e. On vous attend tous avec les bras ouverts. Voilà.
Merci beaucoup et à très bientôt. Donc.
À très bientôt.
Au revoir, les bras.
Merci.
Et donc, on va continuer, Déborah, à parler du village d'enfants du PVD, du Paris Vegan Day. Et en fait, on a Laure qui est une des animatrices, organisatrices de cette partie du Paris Vegan Day.
Oui, donc les enfants ne seront pas en reste. En général, les salons, c'est pas toujours très rigolo pour les enfants. On suit les parents, il y a beaucoup de grands autour, beaucoup de foule, on n'a pas le droit de courir, de jouer. Au Paris Vegan Day, si, il y a un espace qui leur est consacré avec plein d'activités. Il y a notamment Gaia Kids, qui est une association belge qui fait de la sensibilisation auprès des enfants, notamment dans les écoles en Belgique, qui va venir nous faire une petite animation. Il y aura même du yoga pour les enfants. Il y aura une clown, parce que c'est toujours des clowns. Donc là, on a pris une dame clown qui va être avec nous, nous faire des petits ballons, tout ça. Et puis, de quoi jouer, peut-être un château gonflable, mais bon, on ne va pas en dire plus, il va falloir venir pour découvrir. Et pour les parents, pendant que les enfants vont pouvoir s'amuser, sauter, courir et faire du bruit, il y aura donc un petit espace discussion où ils vont pouvoir rencontrer déjà d'autres parents qui sont déjà véganes ou végétariens, s'ils n'en connaissent pas d'autres. Donc, échanger ensemble, mais également des professionnels de la santé, notamment une diététicienne et des médecins qui seront là pour répondre aux questions des parents ou des futurs parents, voilà, sur le mode de vie vegan en famille. Et voilà, et ça va être une petite journée sympathique. Déborah ne l'a pas dit, mais l'entrée est gratuite pour les enfants également. Donc, c'est bon de le préciser. Vous pouvez tout à fait venir en famille au Paris Vegan Day. Voilà. Donc, le 12 octobre, au Doc en Seine.
Donc, c'est un espace dédié aux enfants. Je vous trouve bien démocratique, vous voulez vegan. Également ludique et à visée pédagogique. C'est vraiment génial. Ouais. Voilà. D'accord. Et Lia fréquente ce lieu également, n'est-ce pas?
C'est le salon. C'est juste pendant le salon, en fait, il y a un espace dans le salon. Et donc, Lia y sera, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et c'est juste le temps du salon, il y a un espace dédié aux familles où par exemple les mères allaitantes peuvent se poser pour une tétée ou un biberon, où elles peuvent discuter, rencontrer d'autres parents. Un petit moment pour souffler et s'extraire du salon quand les enfants saturent, voilà.
Et c'est un espace, une initiative dont tu t'occupes en fait.
Voilà.
Je sais que tu as aussi, tu as initié une web revue qui s'appelle Pitaya.
Alors oui, Pitaya, c'est une petite aventure entre mamans. On était un petit groupe de mamans et dont Marion, voilà, qui trouvait que dans l'univers jeunesse, il n'y avait pas grand-chose pour les parents alternatifs. On trouvait beaucoup de viande, il n'y avait pas grand-chose de végétarien, voire au niveau de l'éducation, ça ne nous correspondait pas trop. Et qui a eu donc l'idée de lancer une petite revue qui correspondait à nos valeurs, à savoir le maternage, le végétarisme, l'éducation bienveillante, c'est-à-dire sans violence, sans fessée, voilà, sans tout ça. Et on aime bien également promouvoir la mixité, voilà. Donc, c'est une petite revue qui est gratuite, parce qu'on aime bien les choses gratuites aussi, il n'y a pas grand-chose de gratuit pour les enfants. Donc, elle est disponible en ligne. Les quatre dernières revues qui correspondent, c'est un trimestriel, donc à chaque saison, sont disponibles sur pitaya-magazine.com. Donc, gratuitement, vous pouvez les imprimer sur papier recyclé chez vous ou les consulter sur vos tablettes. Voilà, et disons que le credo de Pitaya, ça pourrait être un petit peu « maternons le monde ». C'est-à-dire qu'on a envie que nos enfants grandissent et contribuent à faire grandir la société de manière non violente. Et la non violence, c'est également dans l'assiette, comme vous le savez bien, c'est-à-dire au niveau alimentaire, au niveau également de notre manière d'éduquer les enfants, c'est-à-dire une manière plus douce, plus respectueuse. Et on cherche à transmettre des choses positives et à que les parents qui ont ce mode d'éducation alternatif se retrouvent dans nos pages. Donc on a des petites BD, des petites histoires toutes mignonnes, et on a également un cahier parent dans lesquels on parle de choses pour les parents, à savoir, par exemple, des choses comme l'accouchement, les couches lavables, tout ce genre de choses. Voilà.
C'est une belle vision du monde que vous transmettez à vos enfants. Et puis, c'est aussi une façon de militer et de communiquer autour de cette notion qu'on voudrait transformer en exigence de société du véganisme.
Mais on pense qu'en fait, en maternant nos enfants, en leur donnant tout de bonnes valeurs ou simplement de l'amour, en donnant de l'amour, en fait, ça permet de faire évoluer la société de manière globale. Et on pense que l'univers jeunesse est quelque chose de particulièrement important et qui, quelque part, formate malheureusement les enfants à des choses pas toujours correctes. Voilà.
Oui, on Absolument. Le voit bien au niveau de l'agroalimentaire où ils essayent justement de pousser dans l'autre sens. Notre dernière pause musicale avec Tribunal Animal sur la bande originale du CD ALF.
Equality. inequality. Equality. Equality. You suffer, I suffer for you. I don't want you to suffer because of me. You suffer, I suffer for you. I don't want you to suffer because of me. I love man too, I love mankind too.
Voilà un petit clin d'œil donc à ALF, le film qui sort en DVD. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir au cinéma ou ceux qui souhaitent l'avoir comme collector, c'est le moment de se jeter dessus, bientôt disponible dans la boutique de L214 sur L214.com, bien entendu. On va passer à notre rubrique agenda. Alors, sur l'agenda, aujourd'hui, nous avons alors les actions L214, il y en a plein qui sont programmées, notamment les actions qui concernent l'élevage en cage de batterie des poules pondeuses, avec des actions qui sont aujourd'hui, on a lancé une nouvelle campagne avec un nouveau site, le secouersuperu.com, où vous pouvez signer une pétition en ligne pour inciter les magasins U à ne plus vendre d'œufs de poules élevées en cage de batterie. Et puis, pour ceux qui nous écoutent en direct, il y a moyen de nous retrouver cet après-midi, rue Montorgueil, à hauteur du 67, devant l'Express U, où nous ferons signer des cartes pétitions. Donc venez les signer en direct à ce moment-là, ou signer sur Internet, ou faites les deux, c'est encore mieux. Bien sûr, les actions Monoprix se poursuivent. Tout le calendrier, hein, il est sur L214.com dans la partie Agir Agenda. Les actions sont toutes répertoriées avec justement une nouvelle interface où on peut trier si on est parisien ou si on est ailleurs qu'à Paris, le type d'action, etc. Quelque chose qu'on voulait rappeler aussi, on est dans les tout derniers jours pour la pétition l'ICE, l'Initiative Citoyenne Européenne contre la vivisection. Donc là aussi, il faut aller signer massivement si vous ne l'avez pas encore fait sur stopvivisection.eu ou inciter vos amis à le faire pour demander que l'expérimentation animale soit bannie d'Europe. Et puis dans les manifestations, 28 septembre, donc ce week-end, deux cars au départ de Paris. Un qui part dans la direction de Ghana pour aller manifester devant un élevage de chiens qui sont destinés à la vivisection, justement. Il reste des places dans le car, donc n'hésitez pas à réserver votre place. Et puis de l'autre côté, un car qui part vers le nord, qui part vers Druka pour s'élever contre le projet d'élevage de 1000 vaches. Donc là aussi, grosse manifestation, départ de la gare de Lyon, gare de l'Est. Et pour celui de Ghana, ça doit être Place d'Italie ou Porte d'Italie. Renseignez-vous sur Internet, donc sur L214.com, toujours dans la rubrique Agenda, vous trouverez tous les détails. Et puis nous recevons Sandra qui fait partie du collectif Laissons leur peau aux animaux. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Voilà, et toi tu vas nous annoncer alors cet événement qui arrive chaque année. Je te laisse le présenter et puis nous donner toutes les modalités pratiques pour vous retrouver le 5 octobre.
Oui, alors tout le monde connaît la marche contre la fourrure qui a eu lieu tous les ans ces 4 dernières années, dont depuis 2 ans à Marseille. Cette année, la marche contre la fourrure devient la marche Laisser leur peau aux animaux, puisqu'elle aborde également les thèmes du cuir, de la laine, de la soie et de la plume, qui sont moins connus, y compris dans le monde des protecteurs des animaux. Donc, bien sûr, tout le monde est le bienvenu à cette marche, et c'est l'occasion pour tout le monde, hein, les passants, mais aussi les participants à la marche, de découvrir dans le village des associations, qui restera ouvert tout l'après-midi, ces thèmes qui sont peut-être moins connus, mais qui concernent aussi l'exploitation animale et qui peuvent être générateurs de beaucoup de souffrance. Donc, les rendez-vous sont à Paris et à Marseille à 13h30. Toutes les informations sont sur le site laissons-leur-peau-aux-animaux, donc à chaque fois avec des -.org. Les points de rendez-vous bien précis sont accessibles via des événements sur Facebook qu'on retrouve sur le site Internet. Super. Voilà, donc là, cette marche, cette année, s'est déclinée sous le signe de la pédagogie. Les alternatives éthiques à ce genre de produits seront mises en avant.
C'est super, un événement à ne pas manquer. Donc, merci beaucoup Sandra de nous avoir rappelé de ne pas manquer le 5 octobre à Paris, à Marseille. Et je sais qu'il y a aussi une déclinaison sur Toulouse qui va se faire. Toutes les informations sur le site laissons-leur-peau-animaux, laissons leur peau aux animaux, .org. Et pour Toulouse, vous retrouverez aussi les informations sur L214.com dans la rubrique agenda. Et puis, bah, dans l'ordre chronologique, on en a parlé tout à l'heure, le Paris Vegan Day, le 12 octobre. Et pendant toutes ces dates, là, c'est les dates du week-end, mais toute la semaine, il y a des actions Paris, Lyon, Lorient, Vannes, Bordeaux. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre agenda en ligne pour retrouver toutes ces informations. On va se tourner vers Lia. Si Lia, elle avait encore quelque chose à nous dire. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu est-ce que les cirques, par exemple, est-ce que de ne pas aller à des cirques où il y a des animaux, ça te manque? Ou est-ce qu'il existe d'autres formes de cirques où on n'a pas des animaux qui sont obligés de faire, de faire les clowns, finalement?
Oui. Par exemple, le cirque de Pékin, le cirque du soleil. Désolée, je crois que ce sont les seuls cirques sans animaux que je connais.
Et tu as eu la chance d'aller voir leur spectacle?
Oui.
Et tu t'es ennuyée?
Non.
Non.
Pas du tout.
Pas du tout. Tu penses qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir être végane et puis de s'amuser?
Ben oui.
Ben oui, c'est évident. J'ai des questions stupides parfois. Est-ce que tu es déjà allée dans un zoo?
Non.
Il y a très très longtemps, quand elle était petite, une fois on allait
dans
un zoo où elle était petite. C'était en fait une sorte de safari. Donc normalement, c'est les gens, les visiteurs qui sont enfermés dans une petite voiture et les animaux sans liberté. On s'est dit, bon bah pourquoi pas? On est tous habitués à aller au zoo quand on est petit. Donc on avait envie de l'amener voir des animaux. Et sauf que c'était pas qu'un safari, il y avait quelques animaux enfermés. Et ça nous a beaucoup marqué avec mon amie parce que son animal fétiche du moment, c'était le tatou. Et elle s'est retrouvée devant un tatou en cage et elle était toute petite et elle me fait « Maman, il est coincé, il est coincé ». Et elle n'arrêtait pas de répéter « il est coincé ». Elle s'est mise à pleurer, elle voulait qu'on le sorte de là. Et bien sûr, on ne pouvait pas sortir le tatou, je ne pouvais pas le prendre dans mon sac à main et m'échapper avec, malheureusement. Et on n'a plus retenté l'expérience du zoo. Et voilà.
Ok, ben merci pour ces témoignages. Donc l'émission d'aujourd'hui, c'était pour montrer qu'on peut boycotter tous les produits d'origine animale et pour autant plutôt bien s'en sortir dans la vie. Hein ?
Et juste un petit mot pour les parents qui ont des enfants qui aimeraient être végétariens, il y a de l'information sur Internet. Pensez à contacter d'autres parents. Il y a des associations, notamment l'AVF, l'Association Végétarienne de France, qui dit un magazine d'ailleurs avec une rubrique famille, qui vous fournira des conseils, il y a des fiches pour savoir exactement comment faire. Mais c'est possible et c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Écoutez vos enfants et ne les forcez pas à manger de la viande surtout.
Voilà, rapprochez-vous des associations quand vous avez besoin et il faut surtout pas hésiter sur L214, vous avez un L214/vegan sur lequel justement vous pouvez retrouver des liens vers l'Association Végétarienne de France, vers la Société Vegan, vers des blogs aussi où il y a des parents qui témoignent justement. Et du coup, voilà, il y a vraiment moyen de faire des choses. On vous retrouve la prochaine fois le mardi 29 octobre pour une émission spéciale chasse. Et on abordera aussi la question du foie gras. En attendant, toutes les informations sur L214.com. Et merci de nous avoir accompagnés toutes ces 7 heures. Merci Lia, merci Laure de vos témoignages. À très bientôt.
Bonjour voisin, comment ça va? Depuis 10 ans qu'on habite...
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98FM.
Un bon moyen pour se détendre en famille, le parc Érouval.
Une grande plage de sable blanc avec des jeux d'eau, des barbecues à l'ombre des noisetiers, mini-fermes, petits trains.
Et plein d'autres jeux. Parc Érouval à 4 km de Gisors, 02 32 55 33 76.
Érouval.com.
Et c'est gratuit pour les moins de 3 ans.
20 septembre au 11 octobre 2013.
Église Notre-Dame de Taverny, l'automne musical fête ses 30 ans de festival.
En septembre, 4 concerts exceptionnels, un programme étincelant.
Le 20, soirée d'ouverture avec l'orchestre à cordes de la garde républicaine au centre culturel.
Le 22, couleur d'Espagne, concert duo de piano.
Le 27, récital de piano.
Le 29, grand concert de gala avec l'orchestre régional de Basse-Normandie.
Renseignement www.automnemusicaltaverny.com.